On arrive enfin chez le gentilhomme, on y est reçu à ravir, le plus grand goûter se sert. On a soin de faire avaler au président une crème aux pistaches qui n'a pas plus tôt dans les entrailles qu'il est obligé de s'informer sur le champ du cabinet secret. On lui en ouvre un très obscur. Horriblement pressé, il s'assoit et se soulage avec empressement, mais l'opération faite, le président ne veut plus se relever. « Mais qu'est-ce encore ceci ? » s'écrie-t-il en jouant du rein. « Ben, il a beau faire, à moins que d'y laisser la pièce, il est impossible de s'en tirer. Cependant, son absence fait une sorte de sensation, on s'informe où il peut être, et ses cris qu'on entend attirent enfin toute la compagnie en face du cabinet fatal. « Que diable faites-vous donc là, si longtemps, mon ami ?» lui dit Dolincourt. « Êtes-vous donc affligé de quelque colique ?» « Eh, ventre bleu !» dit le pauvre diable en redoublant de soins pour se relever. « Voyez-vous pas que je suis pris, bien, je suis pris !» Mais pour donner un spectacle plus plaisant à la société, pour augmenter les efforts du président à se lever de ce maudit siège, on lui passait d'en dessous, sur les fesses, une petite flamme d'esprit de vin qui lui grésillait le poil et le piquant quelquefois un peu ferme, lui faisait faire les bonds les plus extraordinaires et les plus horribles grimaces. Plus on éclatait de rire, plus le président se mettait en colère, il invectivait les femmes, il menaçait les hommes, et plus il s'irritait, plus sa figure enluminée devenait comique à voir. Des mouvements qu'il se donnait, la perruque s'était séparée du crâne, et cet occiput découvert répondait plus pesamment encore aux contorsions des muscles, et de la face, et enfin, le gentilhomme, à court, il fait mille excuses au président de ce qu'on ne l'a point averti, que ce cabinet n'était pas en état de recevoir. Ces gens et lui décollent de leur mieux l'infortuné patient, non sans lui faire perdre un cordon circulaire de peau qui, malgré qu'on en ait, reste attaché au fond du siège, que des peintres détrempés en colle forte, pour lui faire prendre ensuite la teinte dont on avait dessein de le décorer. En vérité, dit Fontanis, en reparaissant avec effronterie, vous êtes bien heureux de m'avoir, et je serai bien à votre amusement. Injuste ami, répondit Dolincourt, mais que faire faut-il que vous en preniez toujours à nous, des malheurs que vous envoie la fortune? J'ai cru qu'il suffisait d'avoir le licol de Thémis pour que l'équité devint une vertu naturelle, mais je vois bien que je me suis trompé. « C'est que vos idées ne sont pas nettes sur ce qu'on appelle équité, » dit le président. « Nous admettons au baron plusieurs sortes d'équité, il y a ce qu'on appelle l'équité relative et l'équité personnelle. » « Doucement, » dit le marquis, « ah non, je n'ai jamais vu qu'on pratiquât beaucoup la vertu, qu'on analyse autant. » Ce que j'appelle équité, moi, mon ami, c'est tout simplement la loi de la nature. On est toujours intègre quand on la suit. On ne devient injuste que quand on s'en écarte. Dis-moi, président, si tu t'étais livré à quelques caprices de fantaisie au fond de ta maison, trouverais-tu fort équitable une troupe de balourds qui, venant apporter le flambeau jusqu'au sein de la famille, y démêlant à force de ruses inquisitoires, de fourberies et de délations achetées, quelques travers excusables à 30 ans, profiterait de ces atrocités pour te perdre, pour te bannir, pour flétrir ton honneur, déshonorer tes enfants et piller ton bien? Dis, mon ami, dis-moi ce que tu penses. Trouverais-tu ces coquins-là bien équitables? S'il est vrai que tu admettes un être suprême, adorerais-tu ce modèle de justice s'il l'exerçait ainsi envers les hommes? Ne frémirais-tu pas de lui être soumis? Et comment l'entendez-vous, je vous prie? Quoi? Vous nous blâmerez de rechercher le crime? C'est notre devoir. Cela est faux. Votre devoir ne consiste qu'à le punir quand il se découvre de lui-même. Laissez aux stupides et féroces maximes de l'Inquisition le soin barbare et plat de le rechercher comme de vils espions ou d'infâmes délateurs. Mais quel citoyen sera tranquille quand, environné de valets soudoyés par vos soins, son honneur ou sa vie seront à tout instant dans les mains de gens qui, seulement aigris de la chaîne qu'ils portent, Croire en s'y soustraire ou l'alléger en vous vendant celui qui la vapeur impose? Vous aurez multiplié les coquins dans l'État, vous aurez fait des femmes perfides, des valets calomniateurs, des enfants ingrats, vous aurez doublé la somme des vices et n'aurez pas fait naître une vertu. Mais il ne s'agit pas de faire naître des vertus, il n'est question que de détruire le crime. Mais vos moyens le multiplient. À la bonne heure, mais c'est la loi, nous devons la suivre. Nous ne sommes pas des législateurs, nous autres, mon cher marquis, nous sommes des opérateurs. Ah, dites mieux, président, dites mieux, répliqua Dolincourt, qui commençait à s'échauffer. Dites que vous êtes des exécuteurs, d'insignes bourreaux, qui, naturellement ennemis de l'État, n'avaient de délices qu'à vous opposer à sa prospérité, qu'à placer des entraves à son bonheur, qu'à flétrir sa gloire et qu'à faire couler sans raison le sang précieux de ses sujets. Malgré les deux bains d'eau froide qu'avait pris Fontanis dans sa journée, la bile est une chose si difficile à détruire dans un homme de robe que le pauvre président frémissait de rage d'entendre dénigrer ainsi un métier qu'il croyait aussi respectable. Il ne concevait pas que ce qu'on appelle la magistrature fût dans le cas d'être bâtonné de la sorte, et peut-être allait-il répliquer en matelot marseillais lorsque les dames s'approchèrent et proposèrent de s'en retourner. La marquise demanda au président si quelque nouveau besoin ne l'appelait pas au cabinet secret. « Non, non, madame, dit le marquis, ce respectable magistrat n'a pas toujours la colique. Il faut lui pardonner s'il en a vu l'attaque un peu sérieusement. C'est une maladie conséquente à Marseille ou à Aix, qu'un petit mouvement d'entrailles, et depuis que nous avons vu une troupe de coquins, confrères de ce gaillard-là, jugés comme empoisonnés et quelques catins qui avaient la colique, il ne faut pas s'étonner qu'une colique soit une affaire sérieuse chez un magistrat provençal. » Fontanis, l'un des juges les plus acharnés de cette affaire, qui avait à jamais couvert de honte les magistrats de Provence, était dans un état difficile à peindre. Il balbutiait, il trépignait, il écumait. Il ressemblait au dogue d'un combat de taureau quand ils ne peuvent parvenir à mordre l'adversaire, et Dolincourt saisissant sa situation. « Mais regardez-le, mesdames, et dites-moi, je vous prie, si vous trouveriez bien d'où le sort d'un malheureux gentilhomme qui, se reposant sur son innocence et sa bonne foi, verrait aboyer près de sa culotte 15 matins comme celui-là. » Le président allait se fâcher sérieusement, mais le marquis, qui ne voulait point encore d'éclat, ayant prudemment gagné sa voiture, laissa Mademoiselle de Thérose mettre le baume sur les plaies qu'il venait de faire. Elle eut beaucoup de peine à y réussir, elle y parvint pourtant. Le bac se retraversa sans que le président eût envie de danser sous la corde, et on arriva paisiblement au château. On soupa, et le docteur eut soin de rappeler à Fontanis la nécessité d'observer son abstinence. « Ma foi, la recommandation est inutile, dit le président. Comment voulez-vous qu'un homme qui a passé la nuit avec une négresse, qu'on a traité d'hérétique le matin, à qui on a fait prendre un bain à la glace pour son déjeuner, qui est tombé peu après dans la rivière et qui se trouverait pris sur les commodités comme un pierrot dans de la glu, a eu le dernier carrière calciné pendant qu'il poussait ses selles et à qui l'on a osé dire en face que des juges qui recherchaient le crime n'étaient que de méprisables fripons et que des catins qui avaient la colique n'étaient pas des catins empoisonnés, comment voulez-vous, dis-je, qu'un tel homme pense encore à dévierger une fille et vieille ? Je suis bien aise de vous voir raisonnable, dit Delgas en accompagnant Fontanis dans la petite chambre de garçon qu'il occupait quand il n'avait point de projet sur sa femme. Je vous exhorte à continuer, et vous sentirez bientôt tout le bien qui en résultera. Le lendemain, les bains glacés recommencèrent. De tout le temps qu'on en fit usage, le président ne se fit point redire la nécessité de son régime, et la délicieuse Thérose put au moins jouir en repos pendant cet intervalle de tous les plaisirs de l'amour dans les bras de son charmant Elben, et enfin, au bout de 15 jours, Fontanis, tout rafraîchi qu'il était, commença à refaire le galant auprès de sa femme. « Oh, vraiment, monsieur, lui dit la petite personne quand elle se vit au point de ne plus pouvoir reculer, j'ai maintenant bien d'autres affaires en tête que l'amour. Lisez ce qu'on m'écrit, monsieur, je suis ruiné. » Et elle présente en même temps une lettre à son mari, dans laquelle celui-ci voit que le château de Thérose, éloigné de 4 lieues de celui où l'on est et situé dans un coin de la forêt de Fontainebleau, où jamais personne ne pénètre, habitation dont le revenu forme la dot de son épouse, est depuis 6 mois habitée par des revenants qui font un tapage effroyable, nuisent aux fermiers, dégradent la terre et empêchent et le président et sa femme, si l'on y met ordre, de jamais toucher un sol de ce bien-là. « Voilà une nouvelle affreuse, » dit le magistrat en remettant la lettre. « Mais ne pourrait-on pas dire à votre père de nous donner autre chose que ce vilain château ?»« Et que voulez-vous qu'il nous donne, monsieur ? Observez que je ne suis qu'une cadette. Il a beaucoup donné à ma sœur, et il serait mal à moi de vouloir exiger autre chose. Il faut se contenter de cela et tâcher d'y mettre ordre. » « Mais votre père savait cet inconvénient quand il vous a marié. » Oui, j'en conviens, mais il ne le croyait pas à ce point-là. Cela n'ôte en rien d'ailleurs à la valeur du don. Cela ne fait qu'en retarder les effets. Et le marquis sait-il cela ? Oui, mais il n'ose vous en parler. Il a tort, il faut bien que nous raisonnions ensemble. On appelle Dolincourt, il ne peut nier les faits, et l'on convient pour résultat que ce qu'il y a de plus simple à faire est d'aller, quelques dangers qu'il puisse y avoir, habiter ce château 2 ou 3 jours pour mettre fin à de tels désordres et voir enfin le parti que l'on peut tirer du revenu. « Avez-vous un peu de courage, président ? » demanda le marquis. « Moi, c'est solo, » dit Fontanis. « Le courage est une vertu de peu de mise dans notre ministère. »« Je le sais bien, » dit le marquis, « il ne vous en faut que la férocité. Il en est de cette vertu-là à peu près comme de toutes les autres. Vous avez l'art de les dépouiller si bien que vous n'en prenez jamais que ce qui les gâte. »« Bon, vous voilà encore dans vos sarcasmes, marquis. Allez, parlons raison. Je vous conjure et laissons là les méchancetés. » « Eh bien, il faut partir. Il faut aller nous établir à Thérose, détruire les revenants, mettre ordre à vos baux et revenir coucher avec votre femme. »« Ah, attendez, monsieur, un moment, je vous prie, n'allons pas tout à fait si vite. Réfléchissez-vous au danger qu'il y a d'aller faire société avec de tels gens. Une bonne procédure, suivie d'un décret, vaudrait beaucoup mieux que tout cela. » « Bon, nous y voilà, des procédures, des décrets. Mais que n'excommuniez-vous aussi comme les prêtres ? Armes atroces de la tyrannie et de la stupidité, quand tous ces cafards en juponnés, tous ces cuistres en jaquettes, tous ces suppôts de Thémis et de Marie, cesseront-ils donc de croire que leur bavardage insolent et leur imbécile papier puissent être de quelque effet dans le monde ? « Apprends, frère, que ce n'est pas avec des chiffons pareils qu'on en impose à des coquins aussi déterminés, mais avec des sabres, de la poudre, des balles. Résous-toi donc à mourir de faim, ou au courage de les combattre ainsi. »« Monsieur le marquis, vous raisonnez de cela en colonel de dragon. Permettez-moi de voir les choses en homme de robe, dont la personne sacrée et intéressante à l'État ne s'expose jamais aussi légèrement. » « Ta personne intéressante à l'État, président. Ah, il y avait longtemps que je n'avais ri. Mais je vois bien que tu as envie d'obtenir de moi cette convulsion. Et par où diable t'es-tu figuré, je te prie, qu'un homme communément d'une naissance obscure, qu'un individu toujours révolté contre tout le bien que peut désirer son maître, ne le servant jamais, ni de sa bourse, ni de sa personne, s'opposant sans cesse à toutes ses bonnes intentions, dont l'unique métier est de fomenter la division des particuliers, d'entretenir celle du royaume et de vexer les citoyens, Je le demande comment peux-tu t'imaginer qu'un tel être puisse jamais être précieux à l'État. Je ne réponds plus dès que l'humeur s'en mêle. Eh bien, au fait, mon ami, j'y consens, au fait, dusses-tu réfléchir 30 jours sur cette aventure, dusses-tu la faire burlesquement opiner à tes pantalons de confrère, je te dirai toujours qu'il n'est à tout ceci d'autre moyen que d'aller nous établir nous-mêmes chez les gens qui veulent nous en imposer. » Le président, marchanda encore, se défendit par 1000 paradoxes, tous plus absurdes, tous plus orgueilleux les uns que les autres, et finit enfin par conclure avec le marquis qu'il partirait le lendemain avec lui et 2 laquais de la maison. Le président demanda l'abri, nous l'avons dit, on ne sait trop pourquoi, mais il avait une grande confiance en ce garçon. Dolincourt, trop au fait des importantes affaires qui allaient retenir l'abri au château pendant cette absence, répondit qu'il était impossible de l'emmener, et le lendemain, dès la pointe du jour, on se prépara au départ. Les dames qui s'étaient levées exprès revêtirent le président d'une vieille armure qu'on avait trouvée dans le château. Sa jeune épouse posa le casque en lui souhaitant toutes sortes de prospérités et le pressa de revenir promptement recevoir de sa main les lauriers qu'il allait cueillir. Il l'embrasse tendrement, monte à cheval et suit le marquis. On avait eu beau faire prévenir dans les environs de la mascarade qui allait passer, l'efflanqué président, sous son accoutrement militaire, parut si tellement ridicule qu'il fut suivi d'un château à l'autre avec des éclats de rire et des huées. Pour toute consolation, le colonel, qui ne quittait pas le plus grand sérieux, s'approchait quelquefois de lui et lui disait « Vous le voyez, mon ami, ce monde-ci n'est qu'une farce, tantôt acteur, tantôt public, où nous jugeons la scène, où nous y paraissons. » Soit, mais ici nous sommes sifflés, disait le président. Où croyez-vous ? Répondait flegmatiquement le marquis. N'en doutons pas, répliquait Fontanis. Et vous m'avouerez que cela est dur. Mais quoi ? Disait Dolincourt. N'êtes-vous donc point accoutumé à ces petits désastres ? Et vous imaginez-vous qu'à chaque imbécilité que vous faites sur vos bancs fleurs d'Elysée, le public ne vous siffle pas aussi ? Naturellement fait pour être bafoué dans votre métier, costumé d'une manière grotesque qui fait rire aussitôt qu'on vous voit, comment voulez-vous imaginer qu'avec tant de choses défavorables d'un côté, on vous pardonne des bêtises de l'autre ? « Non, vous n'aimez pas la robe, marquis. »« Bon, je ne vous le cache pas, président. Je n'aime que les états utiles. Tout être qui n'a rien d'autre talent que de faire des dieux ou de tuer des hommes me paraît dès lors un individu dévoué à l'indignation publique et qu'il faut ou bafouer ou faire travailler de force. Croyez-vous, mon ami, qu'avec les 2 excellents bras que vous a donnés la nature, vous ne seriez pas infiniment plus utile à une charrue qu'à une salle de justice ? Vous honoreriez dans le premier état toutes les facultés que vous avez reçues du ciel, et vous les avilissez dans le second. Mais il faut bien qu'il y ait des juges. Il faudrait mieux qu'il n'y eût que des vertus. On en acquerrait sans juge, et on les foule aux pieds avec eux. Et comment voulez-vous que l'état se gouverne ? Par 3 ou 4 lois simples, déposées dans le palais du souverain, maintenues dans chaque classe par les vieillards de cette classe. De cette façon, chaque rang aurait ses pairs, et il ne resterait pas au gentilhomme condamné la honte affreuse de l'être par des faquins comme toi, si prodigieusement loin de te valoir. Oh, tout cela entraîne dans des discussions. Ah, qui seront bientôt terminés, dit le marquis, car nous voilà dans tes roses. Effectivement, on entrait au château. Le fermier se présente, il prend les chevaux de ses seigneurs, et l'on passe dans une salle où l'on raisonne bientôt avec lui sur les choses chagrinantes de cette habitation. Chaque soir, un bruit épouvantable se faisait entendre également dans toutes les parties de la maison, sans qu'on puisse en deviner la cause. On avait guetté, on avait passé des nuits. Plusieurs paysans employés par le fermier y avaient été, disait-on, complètement battus, et personne ne se souciait plus de s'y exposer. Mais que soupçonnait-on? Il était impossible de le dire. Le bruit public était seulement que l'esprit qui revenait était celui d'un ancien fermier de cette maison qui avait eu le malheur de perdre injustement la vie sur un échafaud et qui avait juré de revenir toutes les nuits faire un tapage affreux dans cette maison jusqu'à ce qu'il eût la satisfaction d'y tordre le col d'un homme de justice. « Mon cher marquis, dit le président en gagnant la porte, il me semble que ma présence est assez inutile ici. Nous ne sommes pas accoutumés à ces sortes de vengeances, et nous voulons, comme les médecins, tuer indifféremment qui bon nous semble, sans que le défunt ait jamais rien à nous dire. » Un moment, frère, un moment, dit Dolincourt en arrêtant le président, tout prêt à se sauver. Achevons d'entendre les éclaircissements de cet homme. Puis, s'adressant au fermier, est-ce là tout, maître Pierre? N'avez-vous nulle autre particularité à nous dire de cet événement singulier? Et est-ce généralement à tous les gens de robe que ce lutin en veut? « Non pas, monsieur, répondit Pierre. Il laissa l'autre jour un écrit sur une table dans laquelle il disait qu'il n'en voulait qu'aux prévaricateurs. Tout juge intègre ne risque rien avec lui, mais il n'épargnera pas ceux qui, seulement guidés par le despotisme, par la bêtise ou par la vengeance, auront sacrifié leurs semblables à la sordidité de leur passion. « Eh bien, vous voyez qu'il faut que je me retire, dit le président consterné. Il n'y a pas la plus petite sûreté pour moi dans cette maison. » Ah, scélérat, dit le marquis, voilà donc tes crimes qui commencent à te faire frémir. Ah, des flétrissures, des exils de 10 ans pour une partie de filles, d'infâmes connivences avec des familles, de l'argent reçu pour ruiner un gentilhomme et tant d'autres malheureux sacrifiés à ta rage ou à ton ineptie. Voilà les fantômes qui viennent troubler ton imagination, n'est-ce pas? Combien donnerais-tu maintenant pour avoir été honnête homme toute ta vie? Puisse cette cruelle situation te servir de quelque chose un jour? Puisses-tu sentir d'avance de quel point affreux sont les remords, et qu'il n'est pas une seule félicité mondaine de quelque prix qu'elle nous ait paru qui vaille la tranquillité de l'âme et les jouissances de la vertu? « Oh, cher marquis, je vous demande pardon, dit le président, les larmes aux yeux. Je suis un homme perdu, ne me sacrifiez pas. Je vous conjure, laissez-moi retourner près de votre chère sœur, que mon absence désole et qui ne vous pardonnera jamais les mots que vous allez me livrer. » Oh, lâche, comme on a raison de dire que la poltronnerie accompagne toujours la fausseté et la trahison. Non, non, tu ne sortiras point. Il n'est plus temps de reculer. Ma sœur n'a point d'autre dot que ce château. Et si tu veux en jouir, il faut le purger des coquins qu'il souille. Vaincre ou mourir, point de milieu. Ah, je vous demande pardon, mon cher frère. Il y a un milieu, c'est de s'échapper fort vite en renonçant à toutes les jouissances. Oh, vil poltron, c'est donc ainsi que tu chéris ma sœur? Tu aimes mieux la voir languir dans la misère que de combattre pour libérer son héritage? Veux-tu que je lui dise au retour que ce sont là les sentiments que tu as affichés? Oh, juste ciel, mais en quel affreux état suis-je réduit? Allons, allons, que le courage te revienne, et dispose-toi à ce qu'on attend de nous. On servit, le marquis voulut que le président dînât tout armé. Maître Pierre fut du repas, et il dit que jusqu'à 11 heures du soir, il n'y avait absolument rien à craindre, mais que, depuis cette époque jusqu'au jour, la place n'était pas tenable. « Nous la tiendrons cependant, dit le marquis, et voilà un brave camarade sur lequel je compte comme sur moi-même. Je suis bien sûr qu'il ne m'abandonnera pas. » Ne répondons de rien jusqu'à l'événement, dit Fanis. Je l'avoue, je suis un peu comme César, le courage est très journalier chez moi. Cependant, l'intervalle se passa en reconnaissance des environs, en promenade, en compte avec le fermier, et lorsque la nuit fut venue, le marquis, le président et leurs deux domestiques se partagèrent le château. Le président avait pour sa part une grande chambre entourée de deux maudites tours dont la seule vue le faisait frémir d'avance. C'était justement par là, disait-on, que l'esprit commençait sa tournée. Il allait donc avoir de la première main. Un brave eut joui de cette fâcheuse, flatteuse espérance, mais le président, qui comme tous les présidents de l'univers, et particulièrement comme les présidents provençaux, n'était rien moins que brave, se laissa aller à un tel acte de faiblesse en apprenant cette nouvelle, qu'on fut obligé de le changer des pieds à la tête. Jamais aucune médecine n'avait eu un effet plus prompt. Cependant, on le rhabille, on l'arme de nouveau, on met deux pistolets sur une table dans sa chambre, on place une lance d'au moins 15 pieds dans ses mains, on allume 3 ou 4 bougies et on l'abandonne à ses réflexions. « Oh, malheureux Fontanis !» s'écria-t-il dès qu'il se vit seul. « Quel est le mauvais génie qui t'a conduit dans cette galère? Ne pouvais-tu pas trouver dans la province une fille qui eût mieux valu que celle-ci et qui ne t'eût pas donné tant de peine? Tu l'as voulu, pauvre président, tu l'as voulu, mon ami, et t'y voilà, un mariage de Paris t'a tenté, tu vois ce qu'il en résulte. Péquer, tu vas peut-être mourir ici comme un chien, sans pouvoir seulement t'approcher des sacrements, ni rendre l'âme dans les mains d'un prêtre. Ces maudits incrédules, avec leur équité, leur loi de nature et leur bienfaisance, il semble que le paradis doive leur être ouvert quand ils ont dit ces 3 grands mots. Pas tant de nature, pas tant d'équité, pas tant de bienfaisance. Mais décrétons, exilons, brûlons, rouons et allons à la messe. Cela vaudra mieux que tout cela. Ce Dolincourt, il tient furieusement au procès de ce gentilhomme que nous jugeâmes l'an passé. Fouguez-là quelque alliance dont je ne me doutais pas. Et quoi, n'était-ce pas une affaire scandaleuse? Un valet de 13 ans que nous avons subordonné et subordé n'est-il pas venu vous dire, parce que nous voulions qu'il nous le dise, que cet homme tuait des catins dans son château? N'est-il pas venu pour faire un compte de Barbe Bleue dont les nourrices n'oseraient aujourd'hui endormir leurs enfants? Dans un crime aussi important que celui du meurtre d'une putain, dans un délit prouvé d'une manière aussi authentique que la déposition acheté d'un enfant de 13 ans qui nous avons fait donner 100 coups de fouet parce qu'il ne voulait pas dire ce que nous voulions, il me semble que ce n'est pas agir avec trop de rigueur que de nous y prendre comme nous l'avons fait. Faut-il donc 100 témoins pour s'assurer d'un crime? Une délation ne suffit-elle pas? Et nos doctes, confrères de Toulouse, y ont-ils regardé de si près quand ils ont fait rouer Calas? Si nous ne punissions que les crimes dont nous sommes sûrs, nous n'aurions pas 4 fois par siècle le plaisir de traîner nos semblables à l'échafaud, et il n'y a que cela qui nous fait respecter. Je voudrais bien qu'on me dise ce que serait un parlement dont la bourse serait toujours ouverte aux besoins de l'État, qui ne ferait jamais de remontrances, qui enregistrerait tous les édits et qui ne tuerait jamais personne. Mais ce serait une assemblée de sots, dont il ne ferait pas le plus petit cas dans la nation. Allez, courage, président, courage, tu n'as fait que ton devoir, mon ami. Laisse crier les ennemis de la magistrature, ils ne la détruiront pas. Notre puissance établie sur la mollesse des rois durera tout autant que l'Empire. Dieu veuille pour les souverains qu'elle ne finisse point par les culbuter. Encore quelques malheurs, comme ceux du règne de Charles VII, et la monarchie enfin détruite fera place à cette forme républicaine que nous ambitionnons depuis si longtemps, et qui, nous plaçant au pinacle, comme le Sénat de Venise, confiera, du moins dans nos mains, les chaînes dont nous brûlons d'écraser le peuple. Ainsi raisonnait le président, quand un bruit effroyable se fit entendre à la fois dans toutes les chambres et dans tous les corridors du château. Un frémissement universel s'empare de lui, il se cramponne sur sa chaise et à peine ose-t-il lever les yeux. « Mais insensé que je suis, s'écrie-t-il, est-ce donc à moi, est-ce donc à un membre du Parlement d'Aix à se battre contre des esprits ? Ô esprit, qu'y a-t-il jamais de commun entre le parlement d'Aix et vous? Cependant, le bruit redouble, les portes des deux tours s'enfoncent, d'effrayantes figures pénètrent dans la chambre. Fontanis se jette à genoux, il implore sa grâce, il demande la vie. « Scélérat !» lui dit un de ces fantômes d'une voix effrayante. « La pitié fut-elle connue de ton cœur, quand tu condamnas injustement tant de malheureux? Ton effroyable sort ne te touchait-il? En étais-tu moins vain, moins orgueilleux, moins gourmand, moins crapuleux, le jour où tes arrêts injustes plongeaient dans l'infortune ou dans le tombeau les victimes de ton rigorisme imbécile, et d'où naissait en toi cette dangereuse impunité de ta puissance instantanée, de cette force illusoire, qu'assure un moment l'opinion et que détruit aussitôt la philosophie? Souffre donc que nous agissions dans les mêmes principes, et soumets-toi, puisque tu es le plus faible. » À ces mots, quatre de ces esprits physiques s'emparent vigoureusement de Fontanis et le mettent en un instant nu comme la main, sans en tirer autre chose que des pleurs, des cris et une sueur fétide qui le couvrait des pieds à la tête. « Qu'en ferons-nous maintenant ? » dit l'un d'eux. « Attends, » répond celui qui avait l'air du chef. « J'ai ici la liste des quatre principaux meurtres qu'il a commis juridiquement. Lisons-la lui. En 1750, il condamna à la roue un malheureux qui n'avait jamais eu d'autre tort que de lui avoir refusé sa fille, dont le scélérat voulait abuser. En 1754, il proposa à un homme de lui sauver la vie pour 2000 écus. Celui-ci ne les pouvant donner, il le fit pendre. En 1760, sachant qu'un homme de sa ville avait tenu quelques propos sur son compte, il le condamna au feu l'année d'après comme sodomite, quoique ce malheureux eût une femme et une troupe d'enfants, toutes choses démentant son crime. En 1772, un jeune homme de distinction de la province, ayant voulu, par une vengeance badine, étriller une courtisane qui lui avait fait un mauvais présent, cet indigne butor fit de cette plaisanterie une affaire criminelle. Il traita la chose de meurtre, d'empoisonnement, entraîna tous ses confrères à cette ridicule opinion, perdit le jeune homme, le ruina et le fit condamner par contumace à la mort, ne pouvant venir à bout de saisir sa personne. Voilà ses principaux crimes. Décidez, mes amis. Aussitôt, une voix s'élève. Le talion, messieurs, le talion, il a condamné injustement à la roue, je veux qu'il soit roué. J'opine à la pendaison, dit un autre, et par les mêmes motifs de mon confrère. Il sera brûlé, dit le troisième, et pour avoir osé employer ce supplice injustement, et pour l'avoir souvent mérité lui-même. Donnons-lui l'exemple de la clémence et de la modération, mes camarades, dit le chef. Et ne prenons notre texte que dans sa quatrième aventure. Une catin fouettée est un crime digne de mort aux yeux de cette ganache imbécile qui soit fustigé lui-même. On saisit aussitôt l'infortuné président, on le couche à plat ventre sur un banc étroit, on l'y garrotte des pieds à la tête. Les quatre esprits follets, s'emparant chacun d'une lanière de cuir longue de 5 pieds, le laissent retomber en cascade et, de toute la force de leurs bras, sur les parties découvertes du malheureux Fontanis, qui, lacéré 3/4 d'heure de suite par les mains vigoureuses qui se chargent de son éducation, n'offre bientôt plus qu'une plaie dont le sang jaillit de toutes parts. « En voilà assez, dit le chef, je l'ai dit, donnons-lui l'exemple de la pitié et de la bienfaisance. » Si le coquin nous tenait, il nous ferait écarteler. Nous en sommes les maîtres, tenons-l'en quitte pour cette correction fraternelle, et qu'il apprenne à notre école que ce n'est pas toujours en assassinant les hommes qu'on parvient à les rendre meilleurs. Il n'a eu que 500 coups de fouet, et je parie contre qui voudra que le voilà revenu de ses injustices, et qu'il va faire à l'avenir un des magistrats le plus intègre de sa compagnie. Allez, qu'on le dégage et continuons nos opérations. Ouf ! S'écria le président dès qu'il vit ses bourreaux partis. Je vois bien que si nous portons le flambeau sur les actions d'autrui, si nous cherchons à les développer pour avoir le charme de les punir, je vois bien qu'on nous le rend aussitôt. Et qui donc a pu dire à ces gens-là tout ce que j'ai fait ? Comment est-il qu'ils soient si bien instruits de ma conduite ? Quoi qu'il en soit, Fontanis sera juste comme il peut. Mais à peine avait-il remis son habit, qu'il entend des cris épouvantables du côté par où les revenants étaient sortis de sa chambre. Il prête l'oreille et il reconnaît la voix du marquis, qu'il appelle de toute sa force au secours. « Oh, que le diable m'emporte si je bouge !» dit le président éreinté. « Que ces coquins-là, les truies comme moi, s'ils veulent, m'en mêlent pas. Chacun a assez de ses propres querelles sans se mêler de celles des autres. » Cependant, le bruit redouble et Dolincourt entre enfin dans la chambre de Fontanis, suivi de ses deux valets, jetant tous trois les hauts cris comme si l'on les eût égorgés. Tous les trois apparaissaient ensanglantés, l'un avait le bras en écharpe, l'autre un bandeau sur le front, et l'on eût juré, à les voir pâles, échevelés, sanglants comme ils l'étaient, qu'ils venaient de se battre contre une légion de diables échappés de l'enfer. « Oh, mon ami, quel assaut !» s'écrie Dolincourt. « J'ai cru que nous y serions étranglés tous les trois. » « Bon, je vous défie d'être plus malmené que moi, » dit le président en montrant ses reins tout meurtris. « Regardez comme ils m'ont traité !»« Oh, par ma foi, mon ami, » dit le colonel, « voilà pour le coup, car d'une belle et bonne plainte, vous n'ignorez pas l'intérêt puissant que vos confrères ont pris de tous les siècles à des culs fouettés. Faites assembler les chambres, mon ami, et trouvez quelque avocat célèbre qui veut bien exercer son éloquence en faveur de vos fesses molestées. Usant de l'artifice ingénieux par lequel un orateur ancien émouvait l'aréopage en découvrant aux yeux de la cour la gorge superbe de la beauté pour laquelle il plaidait, que votre Démosthène couvre ses intéressantes fesses à l'instant le plus pathétique du plaidoyer, et qu'elles attendrissent l'auditoire. Rappelez surtout aux juges de Paris, devant lesquels vous allez être obligés de comparaître, cette aventure fameuse de 1769, où leur cœur, bien plus ému de compassion pour le dernier flagellé d'une raccrocheuse que pour le peuple dont ils se disent les pères et qu'ils laissent pourtant mourir de faim, les détermina à faire un procès criminel à un jeune militaire qui, revenant de sacrifier ses plus belles années au service de son prince, ne trouva d'autre laurier au retour que l'humiliation préparée par la main des plus grands ennemis de cette patrie qu'il venait de défendre. Allons, chers camarades d'infortune, pressons-nous, partons. Il n'y a point de sûreté pour nous dans ce maudit château. Courons à la vengeance, volons implorer l'équité des protecteurs de l'ordre public, des défenseurs de l'opprimé et des colonnes de l'État. « Mais je ne peux pas me soutenir, » dit le président. « Et dit ce maudit coquin me pelé comme une pomme encore une fois, je vous prie de me faire donner un lit et de m'y laisser tranquille au moins 24 heures. »« Mais vous n'y pensez pas, mon ami, vous serez étranglé. »« Soit ce ne sera jamais qu'à rendu et les remords se réveillent avec tant de force maintenant dans mon cœur » que je regarderai comme un ordre du ciel tous les malheurs qu'il lui plaira de m'envoyer. » Comme le train était entièrement cessé, et que Dolincourt s'aperçut que réellement le pauvre Provençal avait besoin d'un peu de repos, il fit appeler Maître Pierre et lui demanda s'il y avait à craindre que ces coquins revinssent encore la nuit suivante. « Oh non, monsieur, répondit le fermier, les voilà maintenant tranquilles pour 8 ou 10 jours, « Oui, vous pouvez vous reposer en toute sûreté. » On conduisit le président éclopé dans une chambre où il se coucha et reposa comme il put une bonne douzaine d'heures. Il était encore lorsqu'il se sentit tout à coup mouillé dans son lit. Il lève les yeux, il voit le plancher percé de 1000 trous de chacun desquels découle une fontaine dont il court le risque d'être inondé s'il ne décampe au plus vite. Il se jette promptement tout nu dans les salles d'en bas, où il trouve le colonel et maître Pierre, oubliant leur chagrin autour d'un pâté et d'un rempart de bouteilles de vin de Bourgogne. Leur premier moment, mouvement, fut de rire en voyant accourir Fontanis à eux dans un costume aussi indécent. Il leur conta ses nouveaux chagrins. On l'obligea de se placer à table sans lui donner le temps de mettre sa culotte qu'il tenait toujours sous son bras à la manière des peuples du Pégu. Le président se mit à boire et trouva la consolation de ses mots au fond de la troisième bouteille de vin. Comme on avait encore 2 heures de plus qu'il ne fallait pour retourner à Dolincourt, les chevaux se préparèrent et l'on partit. « Voilà une fière école, marquis. Que vous m'avez fait faire là ?» dit le Provençal dès qu'il se vit en selle. « Oh, ce ne sera pas la dernière, mon ami, » répondit Dolincourt. « L'homme est né pour faire des écoles, et les gens de robe surtout. C'est sous l'Hermine que la bêtise érigea son temple. » Elle ne respire en paix que dans vos tribunaux, mais enfin quoi, que vous en puissiez dire, fallait-il laisser ce château sans s'éclaircir de ce qui s'y passait? Et en sommes-nous plus avancés pour l'avoir su? Moi, assurément, nous pouvons maintenant asseoir nos plaintes avec plus de raison. Des plaintes que le diable m'emporte si j'en fais, je garderai ce que j'ai pour moi et m'obligerai infiniment de n'en parler à personne. Ah, mon ami, vous n'êtes pas conséquent. Si c'est un ridicule que de faire des plaintes quand on est molesté, mais pourquoi les mendiez-vous? Pourquoi les excitez-vous sans cesse? Et quoi? Vous qui êtes un des plus grands ennemis du crime dont vous vouliez le laisser impuni quand il est ainsi constaté? N'est-ce pas un des plus sublimes axiomes de jurisprudence qu'à supposer même que la partie lésée donne son désistement? Il revient encore une satisfaction à la justice. N'est-elle donc pas visiblement violée dans ce qu'il vient de vous arriver, et devez-vous lui refuser l'encens légitime qu'elle exige? Bon, tant qu'il vous plaira, moi, mais je ne dirai pas un mot. Mais la dot de votre femme? Vous attendrez tout de l'équité du baron, et je le chargerai seul du soin de nettoyer cette affaire-là. Mais il ne s'en mêlera point. Eh bien, nous mangerons des croûtes. Bravo, mais vous serez cause que votre femme vous maudira, qu'elle se repentira toute la vie d'avoir lié son sort à un poltron de votre espèce. Oh, en fait, de remords, nous en aurons bien, je crois, chacun notre part. Mais pourquoi voulez-vous que je me plaigne à présent quand vous étiez si loin tantôt? Bien, je ne connaissais pas ce dont il était question. Tant que j'ai cru pouvoir vaincre sans le secours de personne, je choisis ce parti comme le plus honnête. Et maintenant que je trouve essentiel d'appeler à nous l'appui des lois, je vous le propose. Mais alors qu'y a-t-il donc d'inconséquent dans ma conduite? À merveille, à merveille, dit Fontanis en descendant le cheval, parce qu'on arrivait à Dolincourt. « Mais ne disons mot, je vous conjure, voilà la seule grâce que je vous demande. »